Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'émission En attendant que le monde change. Tous les jours du lundi au vendredi à 11h30 et à 16h30, une petite demi-heure de bonne humeur en espérant que le confinement se passe bien. C'est une émission éphémère qui ne durera que pendant la vie du confinement, donc on espère le moins longtemps possible. Pour autant, on est là, on est au taquet, prêt à vous proposer des choses en termes de culture pour vous permettre de maintenir une activité cérébrale à peu près décente pendant ce confinement, parce qu'on sait que physiquement, c'est mort, c'est mort. L'émission est animée par moi-même, c'est-à-dire Jean-Pierre, qui anime une émission qui est toujours active d'ailleurs pendant le confinement, Le Masque et l'Enclume, une émission de métal, tous les samedis de 17h à 18h, hashtag autopromotion. Et je la co-anime, cette émission, avec Philippe, l'émission On se porte pas plus mal, qui lui est beaucoup, beaucoup plus en difficulté que moi, puisqu'il ne peut pas faire son émission, et en plus, il ne peut pas faire beaucoup de sport. Parce que alors, les dernières vidéos que j'ai vues de lui en activité sportive, il était en survêtement, ça c'est clair, devant sa télévision, en train de décapsuler des bières à la chaîne pour muscler son poignet. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Au programme de cette belle émission, une nouvelle rubrique en plus, puisqu'on va maintenant pouvoir répondre aux questions qui étreignent nos auditeurs. On va innover et ouvrir cette chronique aujourd'hui. On aura au programme du cinéma, du jeu vidéo, la réponse à nos auditeurs, de la musique. Bref, de quoi vous faire passer un bon moment, j'espère. On ouvre tout de suite le bal. En ce 2 avril, ne te découvre pas d'un fil, hein, notamment lorsque tu restes chez toi. On ouvre le bal donc avec du cinéma, mais alors du cinéma sur un support internet et du cinéma sur un support livre. C'est quand même plutôt pas mal. Donc on débute avec Solène qui va nous faire partager sa passion pour un ouvrage consacré au cinéma. Et puis moi-même qui vous parlerai de deux plateformes alternatives à la grosse plateforme vidéo qui prend des parts de marché de façon conséquente pendant le confinement. Mais... qu'on recommande quand même, mais voilà, il y a des choses peut-être aussi à aller chercher un petit peu plus loin. Je vous laisse en la compagnie de Solène, et puis je vous retrouve après ma chronique à moi. Ciao.
Alors je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué, qui me marque encore. C'est un livre d'Alain Bergala qui s'appelle L'hypothèse cinéma, petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs, qui est paru en 2002. Alors, pour faire assez court sur Alain Bergala, il est né en 1943, c'est un réalisateur, un critique. Il enseigne le cinéma, notamment à l'Université Paris 3 et à la FEMIS. Il a été conseiller cinéma de Jack Lang en 2000 et a initié un plan visant à réintroduire les arts à l'école. Et l'hypothèse cinéma, c'est son principal ouvrage, un ouvrage théorique sur l'éducation à l'image. Et pour ceux qui bossent dans l'éducation à l'image, je peux vous dire vraiment que ce livre est un livre de chevet. En tout cas, pour ma part, je parle en mon nom propre, c'est un livre de chevet. Parce qu'il pose la question de l'éducation au cinéma à l'école, comment la rencontre peut s'opérer entre l'œuvre et les élèves, et comment aborder un film en classe, comment pratiquer le cinéma dans le cadre scolaire. Alors je vais pas vous raconter tout le livre, hein, c'est pas le propos de cette chronique, mais je vais vous raconter pourquoi en fait... Pour moi, c'est un livre très important. Il raconte l'importance de la... Notamment, c'est un chapitre du livre, l'importance de la première rencontre avec le cinéma. C'est quelque chose de très important pour moi, pour Alain Bergala, mais la rencontre avec une œuvre d'art. Donc là, on parle du cinéma, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ou la littérature, et que sais-je encore. Mais l'importance de la première rencontre, il le dit très bien, par exemple, il dit « Cette responsabilité est d'autant plus grande si l'on croit, comme Gracq, que tout est joué dès la première rencontre, et qu'elle est souvent irrémédiable. Le pire pour la rencontre avec l'œuvre d'art est l'indifférence dont parle Gracq. Tout le reste, rejet violent, difficulté d'accès, irritation, est encore chemin d'accès entrouvert. » Et on le voit, pour le coup, quand on projette des films à du jeune public, l'indifférence est horrible, mais quand il y a du rejet, en tout cas, il y a matière à discuter. C'est pas, évidemment, on peut ne pas aimer un film, ne pas aimer un livre, mais il y a matière à discussion, en tout cas, quand on n'a pas aimé quelque chose. Mais l'indifférence, c'est le pire de tout. D'où l'importance de la première rencontre. Et l'autre rôle assez essentiel dont parle Bergalet dans son livre, et qui pour moi est d'autant fondamental, c'est le rôle de passeur. D'avoir un enseignant, d'avoir une personne qui va véhiculer son amour de quelque chose. Et de prendre le risque de ça. Il le dit très bien, de ce point de vue, l'enseignant en fait devrait adopter le je pour affirmer ses propres goûts et les faire partager. C'est très important d'avoir un enseignant qui va faire partager sa passion pour quelque chose. Et je vais citer encore Bergalet dans son livre, j'espère vous donner l'envie de découvrir ce livre fondamental de l'éducation au cinéma. Il dit, je cite Bergalet, « Lorsqu'il prend le risque volontaire, par conviction et par amour personnel d'un art, de se faire passeur, l'adulte change lui aussi de statut symbolique, abandonne un moment son rôle d'enseignant tel qu'il est bien défini et délimité par l'institution pour reprendre la parole et le contact avec ses élèves depuis un autre lieu de lui-même, moins protégé, celui où ses goûts personnels entrent en jeu, où le jeu qui pourrait être néfaste dans son rôle d'enseignant devient pratiquement indispensable à une bonne initiation. » Et on a tous, dans notre mémoire, je pense en tout cas, eu un enseignant, une enseignante qui nous a véhiculé un amour de quelque chose. Pour ma part, ça a été le cinéma, un professeur de collège, plus exactement. Mais on a tous un enseignant, en tout cas je l'espère, qui nous a véhiculé l'amour de quelque chose, que ça soit aussi bien dans... peu importe la matière, qu'elle soit artistique ou non d'ailleurs. Et l'autre chose qu'il dit assez précisément dans ce chapitre-là, c'est qu'il faut laisser à l'élève le temps de fréquenter l'œuvre. Comme pour un livre. Le film, il a besoin des fois d'être revu pour être mieux digéré. C'est pas grave si on comprend pas tout à la première vision. Et c'est limite, des fois, c'est même tant mieux. Enfin, il faut se laisser le temps de réfléchir, de comprendre, de voyager dans cette œuvre-là. Il le dit d'ailleurs, par exemple, je cite encore Bergalet, mais il en va au cinéma comme avec le livre, hein, la première vision est mobilisée pour l'essentiel par la nécessité de comprendre l'histoire, ce n'est que dans les approches ultérieures du film qu'on pourra en goûter les véritables beautés artistiques. Je crois qu'on a tous eu le cas par rapport à des films qu'on a peut-être pas compris à la première vision, et puis à la deuxième, à la troisième, on savoure quelque chose... Et puis, il parle de quelque chose de très important, et je vais finir là-dessus, il ne faut pas à tout prix vouloir faire plaisir non plus à l'élève. Et voilà, je vais terminer par cette citation. « La seule attitude possible pour le pédagogue est de parler en toute honnêteté des films qu'il aime, avec la part d'enfance qui subsiste en lui, à la condition expresse qu'il y ait pris lui-même un réel plaisir de spectateur, et non pas entrevu les plaisirs frelatés d'un pédagogisme paternaliste du type « cela est bon pour eux », même si ça ne l'est pas pour moi. » Et je crois qu'on tient quelque chose de très important. Il faut parler des choses qu'on aime pour éventuellement, en tout cas, faire passer cette passion à un élève. Il ne faut pas se borner à parler de choses qu'on n'aime pas. Parce que ça ne pourra pas fonctionner. Je crois, j'ai essayé de trouver une conclusion assez simple. Voilà, c'est pour ça qu'à la radio aussi, c'est très important de parler des choses qu'on aime pour essayer, à vous, auditeurs, de convaincre, en tout cas, de découvrir, d'être curieux, de lire, de voir, d'écouter quelque chose. Et c'est pour ça qu'on essaye, en tout cas, d'être assez passionné dans ce qu'on lit, parce que nous, on est sincères là-dedans, et de vous donner envie de découvrir. Et là, en l'occurrence, de découvrir ce livre d'Alain Bergalet, qui, je répète, s'appelle « L'hypothèse cinéma, petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs » aux éditions Cahiers du cinéma, qui est paru en 2002.
Et oui, le confinement est long et il vous faut trouver des activités. Donc si comme cette charmante personne vous vous ennuyez un petit peu, je vais dans cette petite chronique vous faire découvrir deux plateformes qui proposent une réelle alternative aux géants que vous connaissez tous. Voilà, je ne l'ai pas nommé pour ne pas lui faire de la pub. Donc je vais vous présenter deux plateformes en ligne. qui sont très différentes, qui vont vous proposer des choses très différentes de ce que la plateforme dont vous avez entendu le petit générique peut vous proposer, et qui sont pas forcément beaucoup plus onéreuses que la dite plateforme énigmatique. Voilà. Donc la première plateforme dont je vous parlais, c'est Mubi. Mubi, c'est une plateforme étrangère, hein, anglo-saxonne, qui propose 30 films disponibles pendant un mois, et chaque jour, un nouveau film remplace le précédent. Et il y a toujours 30 films soigneusement choisis à regarder ou à télécharger, des perles oubliées, des nouveautés tout droit sorties des festivals, des films cultes ou des chefs-d'œuvre. Par exemple, en ce moment, vous pouvez y retrouver le sacrifice de Tarkovsky, pardon, l'intendant Sancho de Mizoguchi, et des films un peu plus contemporains comme le Xavier Dolan, J'ai tué ma mère, Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot, c'est un petit peu moins contemporain, et chaque jour, un film chasse l'autre. Donc ils ont une offre en plus actuellement qui est très intéressante, une offre découverte, 3 mois pour 1 euro, donc ça vous fait 33 centimes par mois, pour découvrir comme ça des films vers lesquels probablement vous ne seriez pas allé naturellement. Donc ce que je trouve très chouette dans cette plateforme, c'est qu'il y a un choix restreint. Hein, ce n'est pas comme d'autres plateformes où vous avez des milliers et milliers de possibilités. Donc le fait que le choix soit restreint, c'est facilitant pour le choix, et c'est surtout un choix de qualité qui est fait, une sélection de qualité qui est faite en amont. Donc Mubi, M-U-B-I, tardez pas trop à aller vous inscrire, même pour découvrir à 1 euro pour 3 mois. Vous risquez pas grand-chose, à part de faire des très très bonnes surprises. Voilà. L'autre plateforme, c'est une plateforme française, Cocorico. J'aurais dû faire un petit jingle Cocorico, mais non, je ne l'ai pas prévu. Donc c'est Tank, qui est né de l'irrésistible désir de partager une passion pour le documentaire d'auteur. Donc l'ambition du site est assez simple, faire découvrir ou redécouvrir des documentaires exceptionnels qui ne rencontreraient plus leur public faute de diffusion en dehors des festivals. Donc là pareil, hein, c'est une sélection qui est pré-réalisée par une vingtaine de chroniqueurs spécialisés dans le doc, mais pas que, hein, c'est amateurs de cinéma et cinéphiles qui vont comme ça sélectionner des choses. Les films sont disponibles pendant 60 jours et puis se renouvellent très régulièrement. Donc vous avez un peu de tout. Vraiment, ça part dans tous les sens, tous les formats. Voilà, donc l'abonnement là est à 6 euros par mois, mais vous avez aussi la possibilité de découvrir pendant un mois la plateforme pour 1 euro. Donc en période de confinement, je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil. Il y a quand même énormément de choses, hein. Ça va de l'histoire à l'écologie, en passant par des entretiens, des arts, de la musique. Ça, il y a vraiment plein de belles choses si vous êtes un peu curieux. Et puis en plus, si vous voulez soutenir un peu les initiatives françaises dans ce monde mondialisé des nouvelles technologies où la France n'a pas forcément une place prépondérante, allez-y, ça s'appelle Tank, T-E avec un tréma sur le E-N-K. Et si vous voulez découvrir pour 1 euro par mois. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Je vous redonne le nom des deux plateformes. Mubi, plateforme découverte, 30 films disponibles pendant 30 jours. Enfin, c'est un renouvellement journalier. Offre découverte, 1 euro tous les 3 mois. Donc, allez-y. Pour 3 mois, pardon, pas tous les 3 mois, parce qu'au terme de ces 3 mois, ça sera un tout petit peu plus onéreux, vous regarderez. Et puis Tank, avec un mois offert à 96 centimes, je crois. Enfin, il n'est pas offert, hein, c'est 96 centimes. Enfin, c'est comme si. Et puis après, c'est 6 euros par mois. Et vous avez la possibilité de vous engager sur plus longtemps. Tout ça, vous retrouvez sur le net, c'est assez simple. Vous avez juste à taper Mubi ou Tank dans vos moteurs de recherche. Et puis voilà, je vous quitte, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien, restez chez vous.
Ah ! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein ? Et puis alors après, c'est bon quoi, il faut se taper les GSM qui jouent, les gens qui discutent, attends, parce que quand le film commence, le concert aussi.
Et me voici de retour donc dans l'émission En attendant que le monde change, et c'est vrai qu'on souhaite très très vite que le confinement s'arrête, qu'on puisse à nouveau fréquenter les salles de cinéma, parce que ça manque cruellement de ne pas pouvoir voir des films sur grand écran. On marque une petite pause, et avant ça je vais rectifier une erreur et une imprécision de ma part, nous ne sommes pas le 2 avril, mais nous sommes le 1er avril. C'est vrai que tous les jours de confinement se ressemblent, pour autant il faut être précis, donc on est ce fameux jour où on fait plein de blagues rigolotes et bien ridicules, je n'en ferai pas pour me démarquer. Allez, on poursuit en musique avec une petite respiration avec de la pop surannée, très bien arrangée et en provenance d'Italie, c'est Andrea Laszlo de Simone, tiré de son EP Immensità, un immense EP très calme, très délicat, et on va s'écouter le morceau Mysterio. On se retrouve après pour plein de nouvelles chroniques et la fameuse rubrique que je vous annonçais où on répond aux questions terrifiantes de nos auditeurs.
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Sei un po' spaventato, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo. Thank you.
Décidément, je me suis trompé de morceau. C'est ma journée. C'est spécial dédicace 1er avril. Au lieu de faire des blagues, je suis victime de boulettes. Donc, c'est bien Andrea Laszlo de Simone. Et le morceau, ce n'était pas Mysterio, mais Conchiglie. Avec mon accent italien terrifiant. Allez, on poursuit avec le programme de l'émission et le courrier des lecteurs, enfin des auditeurs, notre journaliste Mélissa qui répond avec son brio légendaire à une question existentielle que lui pose Paulette. Et ensuite, on poursuit avec Philippe, tout en muscles, en corps musculeux et huilé, qui va vous parler d'un jeu vidéo qu'il adore. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve après, avec, j'espère, un peu moins de boulettes.
En ces temps confinés, chers auditeurs, vous n'hésitez pas à nous faire part de vos inquiétudes. Aujourd'hui, c'est Lucette qui nous pose une question via les réseaux sociaux. Ainsi, Lucette nous demande, peut-on dire « merde » à son voisin ? Donc après des recherches, il nous est apparu que rien dans l'habeas corpus ne semble spécifiquement interdire de dire « merde » à son voisin. Aussi, on peut évidemment s'autoriser cette grossièreté, même si rien ne nous y contraint. Il faut tout de même, Lucette, mesurer les conséquences possibles de cette étrange apostrophe en ces temps obscurs et confinés. On en veut pour preuve cette fable bien connue de Jean de La Fontaine. Je cite donc « Ce jour où merde vous me dites, je ne l'oublie pas, certes, ma petite. Vous ne pouvez quérir du doliprane, et comptant sur ma bonté, je serai votre âne. Vous m'emmerdiez, j'en suis fort aise. Eh bien, démerdez-vous, maintenant. » Voilà, on trouve quand même une certaine sagesse dans les fables de La Fontaine. Il ne faut pas hésiter à y revenir de temps en temps. Et pour finir cette réponse à Lucette, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter une chanson en lien avec les fables de La Fontaine, et nous allons écouter Pete et Rick, la Cicrane et la Fourmi.
Vous avez l'âme d'un Steven Spielberg ou de George Lucas. Vous rêvez de diriger le prochain Star Wars ou votre propre studio de cinéma. Alors Peter Molineux est votre ami. Peter Molineux était le fondateur du défunt Lionhead Studio. Il est connu dans le monde du jeu vidéo pour ses annonces fracassantes, mais qui ne prenait pas forcément en compte les limitations techniques de son époque et du temps de développement. Parmi ses créations les plus connues, on peut citer la série des Populus, Fable, Syndicate, Black and White et le jeu que nous allons aborder aujourd'hui, The Movies. L'élaboration de The Movies a commencé fin 2001, lorsque Peter Molineux et plusieurs cadres des studios Lionhead eurent en tête de créer un jeu de simulation inspiré d'un hit des années 90, Hollywood Mogul. Néanmoins, l'idée était de conférer un aspect plus réaliste au jeu de gestion d'un studio de cinéma. Le projet fut annoncé en avril 2002, lors du salon de l'E3. La réaction des fans fut très enthousiaste, le stand The Movies ayant été l'un des plus visités lors de ce salon, et plusieurs éditeurs souhaitèrent obtenir la distribution du logiciel. Les studios Lionhead choisiront Activision. Le développement du jeu dura 4 ans à la suite des diverses modifications du moteur graphique. Le jeu sort finalement en novembre 2005. Au début du jeu, le joueur est placé à la tête d'un tout nouveau studio de cinéma. L'objectif est de se faire une place à Hollywood pour devenir le studio phare attirant les plus grandes stars du moment et produisant les films en tête du box-office. The Movies peut être scindé en trois parties distinctes: la gestion du studio, la gestion des acteurs et la production de films. Mais contrairement aux autres jeux de gestion classiques, il y a ici une particularité dont on reviendra plus tard. Au niveau gestion du studio, avant d'ouvrir son studio, il est nécessaire de construire les divers bâtiments principaux qui permettront la réalisation du premier film. Ainsi, l'école d'art dramatique permet de recruter les acteurs et actrices et les réalisateurs et réalisatrices. On peut importer des stars soi-même grâce au Star Maker employant quelque peu le système d'édition des Sims. Le bureau d'équipe permet de recruter l'équipe technique. Le bureau de casting sert à choisir l'équipe du film, réalisateur, acteur, équipe technique. Le bureau de production, quant à lui, est nécessaire à la sortie et l'exploitation des films, ainsi que la gestion financière du studio et des stars. Une quantité importante de décors que l'on débloque au fur et à mesure du jeu est disponible pour pouvoir réaliser des films de diverses époques et genres. Par la suite, d'autres bâtiments deviennent disponibles, notamment les bureaux de script permettant l'écriture des scénarios à mettre en scène, ou encore le laboratoire permettant la recherche de nouveaux décors, costumes, effets spéciaux. Un classement des studios est établi tout au long du jeu, avec des cérémonies dans l'esprit des Oscars qui sont organisées tous les 5 ans à partir de 1925. Comme dans tous les jeux de gestion, la partie financière est très importante. Il faut gérer la masse salariale des employés et des acteurs, les frais de fonctionnement, l'entretien des bâtiments, les investissements quotidiens, recherche de nouvelles technologies, écriture des scripts, construction de nouveaux décors et infrastructures, et la gestion des stars. La gestion des stars est également une part importante du jeu. Les stars jouent un rôle essentiel dans la réputation du studio. Plus elles sont connues, récompensées lors des cérémonies, présentes dans la Press People, et plus le studio prendra de l'importance. La gestion des stars peut s'avérer assez complexe car il faut constamment soigner leur image et veiller à leur bien-être. Les divers changements d'humeur peuvent être dus à la sortie récente d'un film, à un salaire et insuffisamment élevé, au manque de travail, au surmenage, à des problèmes d'alcoolisme ou de boulimie, ou encore aux publications de photos compromettantes dans la Press People, etc. Divers paramètres sont donc à surveiller. Dans ce jeu, vous pouvez également gérer la production de films. La première étape consiste à commander un script au scénariste dans le bureau de script. Il faut également décider s'il s'agit d'un film d'action, d'horreur, de SF, d'amour, de comédie, etc. Les bureaux de script, tout comme les scénaristes, s'améliorent au fil du temps et permettent au film de gagner des étoiles. Ensuite, il faut constituer l'équipe du film dans le bureau de casting. Ainsi, il faut choisir l'équipe technique, les figurants, le réalisateur, les acteurs du film, ces trois derniers étant plus ou moins bons dans tel ou tel genre. Il est nécessaire d'engager le personnel approprié. Après les répétitions, le tournage peut commencer. Et attention, il faut veiller à ce que les acteurs et le réalisateur soient de bonne humeur et n'accumulent pas trop de stress. À partir d'une certaine époque, dans le bureau de promotion, le travail de relations publiques va permettre aux stars de faire la promotion de leur film avec comme finalité l'augmentation du nombre de spectateurs. Dernière étape est l'opération marketing dans le bureau de production avant la sortie du film. La petite particularité dont je vous ai parlé plus tôt, c'est que vous pouvez créer vos propres films. Outre le côté jeu de gestion de The Movies, l'aspect qui a très vite retenu l'attention des joueurs et les réalisateurs en herbe a été la création personnalisée de films. Des possibilités assez étendues ont été mises à disposition de l'utilisateur pour permettre de réaliser et de monter ses propres créations en machine et main. Les joueurs pouvaient téléverser leurs créations sur le service de Movies Online en exportant leurs films avec divers niveaux de qualité. Certains machinima créés avec The Movies ont attiré l'attention des médias comme The French Democracy par exemple. Aujourd'hui encore, toute une communauté crée encore des films par le biais du jeu. Il suffit de taper machinima The Movies sur YouTube pour voir quelques créations dont certaines sont de très grande qualité. Ce jeu est une réussite. Certes, il a vieilli graphiquement, mais pour un jeu vieux de 15 ans, il tient encore la route. En alliant le côté gestion pure qui peut attirer les fans du genre, et le côté créatif avec la possibilité de créer ses propres œuvres, et ce petit twist sim-like qui fait tout de suite rire, il a tout pour plaire. Ce jeu est disponible sur PC en abandonware, donc allez-y, jetez-vous dessus, ça vaut vraiment le coup. Quant à nous, on se retrouve d'ici bientôt pour une nouvelle chronique jeux vidéo. D'ici là, portez-vous bien, respectez le confinement, écoutez Radio Campus et à très bientôt.
Bon, il me reste très précisément 23 secondes pour vous dire au revoir. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle émission de En attendant que le monde change, cette fois-ci animée par le talentueux Philippe. Moi, je vous retrouve après-demain. Portez-vous bien, restez chez vous. ...30, une petite demi-heure. Voilà, une demi-heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue... Ah, superbe, le SMS qui arrive en plein milieu de l'enregistrement. Bonjour, cette putain de catastrophe. Bonjour, bienvenue. Oh, un, deux. Diffi, voilà, c'est complètement. C'est ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission... C'est tordi, là, il fait trop de bruit.